21h05 en ce vendredi soir, comme on a pris la bonne habitude de le faire depuis quelques semaines, c'est le moment d'accueillir Sylvain Ménard.
Salut monsieur, salut tout le monde. Voyage dans le temps. Voyage
1972 ce soir.
1972, tu connais la chanson des Hollies?
Bien sûr.
Est-ce que tu as déjà essayé de jouer de la guitare électrique?
Un petit peu, mais pas bien, bien. J'ai essayé de jouer de l'accordéon, surtout.
Pour imiter les grands succès de Bibi la crème. Ouais. Bon, ben c'est ça. Si tu avais joué de la guitare en 72, tu aurais probablement essayé de jouer cette chanson-là, « Long Cool Woman in a Black Dress » des Hollies. Mythe de rien comme ça, on est en train d'écouter un groupe qui existe depuis 1962.
Ils existent encore?
Oui, oui. Bon, OK, c'est pas les mêmes membres, il reste juste deux originaux, mais c'est un groupe qui est aussi vieux que les Stones, c'est des Britanniques. Et ça, cette chanson-là est enregistrée pour un album pas vraiment connu, mais surtout enregistrée en l'absence du réalisateur qui était malade cette journée-là.
Ah.
Ça fait que les musiciens ont fait ce qu'ils voulaient, puis ça a donné comme un gros, gros, gros succès aux États-Unis, mais pas au Royaume-Uni, étrangement.
Étonnamment.
Alors que les Hollies, d'habitude, au Royaume-Uni, c'était des grosses, grosses, grosses vedettes. Mais là, c'est aux États et au Canada que ça a marché.
Ah. La guitare, c'est mon gars qui s'est occupé de ça.
Ah oui?
Le guitariste, mon plus vieux.
Disons que ça prend pas beaucoup, beaucoup d'habilité pour en arriver à ce résultat-là à peu près, mais c'est l'intro.
Oui, ça accroche.
Bon, d'habitude, on oubliait ça, puis on passait de suite au schlac, 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 ça allait un petit peu mieux. Fait que voilà. Bon, on y va avec notre premier succès québécois de 1972. Monsieur Morin. L'inévitable mur derrière la grange de Donald Lautrec. Tu sais que c'est un texte de Luc Plamondon. J'ai appris ça aujourd'hui. Je ne le savais pas. Donald Lautrec...
Je pense que je n'ai jamais entendu cette chanson-là de ma vie.
Ah, OK, tu es vraiment un petit peu plus jeune que moi. Parce que ça, ça avait été un succès.
Oui, non, ça ne me dit vraiment rien. Première fois que j'entends ça.
Ça avait été le hit de l'été. Ça.
Wow!
Je te dis des fois j'en mange. Tu veux fâcher pis de la vache enragée.
Ça, ce que l'on vient d'entendre là, « Oh, l'autoroute, ça vient percer », c'est ce qu'on appelle le hook dans une chanson. C'est ce que tu retiens.
Okay? Ça fait penser au colloque rue principale. Là.
C'est ça, ça, mais faut que tu... Hein? Effectivement. Mais faut que tu te replaces dans le contexte. L'autoroute 72, vient, ouais. Les autoroutes, ces affaires-là, Mirabel. Ouais. Donald Lautrec avait fait un album cette année-là qui s'appelait « Fluffy ». Et Donald Lautrec avait profité de l'album « Fluffy » pour passer des yéyés aux chansonniers. C'est-à-dire de la musique que l'on qualifiait de ordinaire, des yéyés, pour arriver avec une œuvre constituante. D'ailleurs, Beau Dommage, les premiers textes de l'album, du premier album de Beau Dommage, avaient été proposés à Donald Lautrec.
Ah oui?
Ils avaient refusé.
Ah?
Bon, je pense qu'il le regrette depuis ce temps-là. Mais ça, ce succès-là, le mur derrière la grange, là, j'allais dire la maudite machine, le mur derrière la grange, ça a été un gros succès de l'été. Et évidemment, l'été s'était
arraché. Bon.
Oh oui, je comprends. Mais l'été, tu te rappelles, t'as pas connu la série Canada-Russie de 72, toi?
J'ai de vagues souvenirs. Ouais, c'est, j'avais 6 ans, mais oui, j'ai de très vagues souvenirs. Mais je peux, les souvenirs les plus concrets sont ceux que j'ai revus grâce parce qu'on a revu des matchs et tout ça.
C'est ça. Mais la formidable claque sur la gueule, mon ami, parce que le dépistage avait été mal fait, l'espionnage auprès des Russes avait été tout à fait déficient. Bref, l'équipe canadienne était convaincue que les Russes, comme ça.
Mm-hmm. C'est pas comme ça que ça s'est passé, comme l'histoire...
Jusqu'au premier soir, défaite de 7-3, où les joueurs canadiens se faisaient passer entre les jambes, à côté des cheveux, ça allait pas. Il avait pris le camp d'entraînement un petit peu à la légère.
Tout un réveil.
C'est la seule chose qui était légère, d'ailleurs, dans le camp d'entraînement. Parce que les gars étaient un petit peu gras, mettons. Puis eux autres pensaient vraiment que c'était une série de matchs d'exhibition. Parce qu'on leur avait dit que les Russes, le gardien n'était pas ben bon, puis qu'il laisserait passer des ballons de plage.
Mauvais rapport de dépistage.
Oui, c'était un monsieur Davidson, un ancien gars de l'organisation des Leafs des années 30. Les Russes l'avaient niaisé un petit peu parce qu'il était au courant de sa présence dans les estrades.
On l'avait leurré.
Oui, quand il était venu espionner. Ça fait que les gars se sont mis à patiner sa bottine, puis lui, il a dit « Ah, il patine sa bottine. » Ce qui fait que ça avait été ça. La série du siècle de 72 avec un grand absent, Bobby Orr. Est-ce que la série du siècle aurait eu une autre issue si Bobby Orr avait joué? Probablement, mais moi, et c'est là d'habitude que je lance ma bombe, moi, je pense que le Canada ne méritait pas de gagner. Ils ont triché. À cause de Bobby Clark.
Ah, ben, qui avait fracturé la cheville à Valérie Harlamoff.
Oui, c'est ça. Ça serait comme, c'eût été comme fracturer la cheville de Guy Lafleur dans une série Boston-Canadien des années 70. On a gagné 4 matchs, 4 victoires, 3 défaites, 1 nul, mais on n'aurait jamais dû gagner cette série-là. On l'a perdu. Mais c'est comme les Américains puis la guerre du Vietnam, tu sais. Convaincu qu'ils l'ont gagné, mais dans le fond, ils l'ont perdu. Ça fait que voilà, c'était ça en 1972 qui se passait. Mais en 72, il y avait d'autres choses aussi. Et quand on parlait de guitare tantôt, attention, celle-là, elle fait ça.
Oh!
Alice Cooper, n'oublions pas que c'est le nom du groupe, Alice Cooper. Le gars a fait changer son nom pour Alice Cooper. Ensuite, son nom, tu sais comment il s'appelle? Vincent Fournier. Ou Fournier.
Oui. Bon, c'était... Et c'est un excellent joueur de golf.
Oui, semble-t-il qu'il est redoutablement efficace sur les links. Ben, c'est ça, en 1972, au mois de juin, on lance un album qui s'intitule Schools Out. Tu sais, en partant, tu mets chance de ton bar, là. Et puis, t'as pas revu la pochette originale. C'était tellement beau. Dans le temps qu'on avait des belles pochettes, pochettes concept, t'ouvrais la pochette, c'était comme un pupitre. Là, tu ouvrais la pochette de carton, puis là, tu avais le contenu du pupitre, peut-être là, qui recelait des secrets, ben, tu sais, dignes d'Alice Cooper lui-même. Ça fait que ça avait été un gros, gros, gros numéro 2 aux États, mais un numéro 1 au Canada. On va garder le fond musical, je vais te parler de baseball. Roberto Clemente frappe son 3 millième coup sûr. Le dernier coup sûr de sa carrière, c'est son 3 millième. Malheureusement, il décède le 31 décembre. Il s'en va participer à une opération au Nicaragua, là où il y a eu des tremblements de terre. Et puis malheureusement, 38 ans, meurt dans un accident d'avion. Jackie Robinson est décédé le 24 octobre à l'âge de 53 ans. Mais il était très malade, Jackie Robinson, à la fin de sa vie. Hein. 53 ans, il avait l'air de quelqu'un qui avait 70 à peu près, là, 75, 80 même. Il était aveugle d'un œil, diabète, tout ça. Donc, Jackie Robinson qui meurt. Et la série mondiale cette année-là, les athlétiques d'Oakland, les porteurs de moustaches, les excentriques.
Reggie Jackson
qui était là. Catfish Hunter, Joe Rudy, Gene Tennis. Il n'était pas supposé gagner, eux autres. Ils se prenaient contre le Big Red Machine, les Reds de Cincinnati, avec des petits joueurs comme Pete Rose, Johnny Bench, Joe Morgan, Tony Perez. Ben, c'est les athlétiques qui ont gagné. Les excentriques étaient contents avec des habits jaunes. On n'en revenait pas. Les joueurs de baseball en jaune, maintenant, on a vu pire que ça.
Fait que
voilà, c'est ça. Et puis au football, bien évidemment, les Cowboys de Dallas qui remportent le Super Bowl numéro 6 contre les Dolphins de Miami. Tom Landry, l'instructeur des Cowboys, et Don Shula, qui était l'instructeur des Dolphins. Voilà, on passe à une autre chanson, mon ami. OK. Celle-là, tu ne connais probablement pas, ça, je te le conseille en partant. C'est ton ami, mon frère, de Denis Forcier. C'est qui, Denis Forcier? Je t'explique ça. Ça sonne pas du tout comme George Harrison, hein? Bon, ben Denis Forcier, c'est le George Harrison des sultans. Parce que t'avais Bruce Huard, Bruce et les sultans, évidemment. Denis Forcier, c'était le guitariste, ben, le guitariste rythmique, et aussi celui qui faisait toutes les harmonies vocales. Il a fait quelques chansons en solo, dont celle-là, c'est Ton ami mon frère, qui avait été un immense succès en 1972. Ah oui? Non, ça marchait fort, ça. Denis Forcier qui a fait sa carrière ensuite dans les chants en studio, donc pour les publicités, ces choses-là, qui a fait une très, 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 très belle carrière, mais très, très, très discrète, si tu veux, toujours, toujours, toujours derrière les caméras. On ne l'a pas revu. Il n'y a pas de photo qui existe de Denis Forcier depuis 40 ans à peu près, là. Mais il est toujours là. Il a toujours ses rencontres avec ses chums des sultans. Il se retrouve une fois de temps en temps, mais ça, ce 45 tours-là avait été un immense succès. Et j'en profite pour te parler de la fondation de l'AMH. 1972, première année de l'Association mondiale de hockey. et donc des nordiques. Fait à signaler, l'Association mondiale est arrivée cette année-là avec 12 nouvelles équipes. Il y avait déjà 16 équipes dans la Ligue nationale. Ce qui veut dire qu'en 6 ans, de 67-68 à 72-73, on était passé de 6 équipes à 28 équipes. Le calibre est un peu dilué, mettons.
Oui, avant l'arrivée des Européens, de façon importante.
Oui, c'est ça. La première année, oui, tu avais eu des gros noms. Tu avais eu Bobby Hull, évidemment, qui a complètement fait exploser l'échelle des salaires. Mais tu avais aussi des transfuges. Tu avais Derek Sanderson, John McKenzie, Bernard Parent, Jerry Cheevers et Jean-Claude Tremblay, qui est allé jouer pour les Nordiques. Et ça, c'était le crime, quitter l'organisation du Canadien.
Et d'ailleurs, en tout cas, il y en a qui lui en ont voulu longtemps. Il n'a jamais été choisi ou élu, sélectionné au Temple de la renommée du hockey, là où plusieurs pensent qu'il aurait eu sa place.
Ah, tout à fait. Non, je me rappelle de Jean-Claude Tremblay, c'était un dominant, c'est clair. Mais on parlait tantôt de Canada-Russie, Paul Anderson, qui avait aussi fait le saut vers l'Association mondiale, n'a jamais été élu au Temple de la renommée.
Mais là, il y a une autre discussion sur sa carrière ou la valeur de ses buts dans la série du siècle, parce que sa carrière était moins reluisante, bien sûr, que sa série du siècle.
Ben évidemment.
Mais ça aurait peut-être valu juste ça, juste ce qu'il a fait en 72, lui aurait peut-être valu ça. Mais
non, parce que si Paul Anderson avait eu une carrière à la hauteur de la série du siècle, c'eût été Wayne Gretzky, tu sais. Ça avait juste pas de bon sens. Mais l'Association mondiale de la première année, c'était des joueurs qui arrivaient de la Ligue américaine, de la Ligue Eastern, c'était vraiment un rassemblement, disons. J'aurais pas dit le mot ramassi, là. Mais d'ailleurs, on avait dit que les Nordiques, quand il y avait eu le repêchage universel pour la formation de la première équipe, avaient repêché tout ce qu'il y avait une paire de patins au Québec ou à peu près, incluant ceux qui jouaient plus depuis 5-6 ans. Il y en a qui s'étaient retrouvés avec les Nordiques qui avaient arrêté de jouer depuis un bout de temps. Jean-Guy Gendron avait arrêté sa carrière depuis une couple d'années. Alain Boum-Boum Caron qui s'était retrouvé avec eux autres.
The Rocket les a dirigés le
matchs.
Temps de...
Oui, c'est ça. Deux matchs. Un match à l'extérieur et un match à domicile. Et il l'avait déjà dit à Marius Fortier, qui était le grand boss des Nordiques, après le premier match. Ben, tu as connu Maurice Richard un peu, là. Moi, je... 17.
C'était pas pour lui.
Mais il était pas... Non, puis il était pas préparé. Pendant le camp d'entraînement des Nordiques, Maurice Richard assistait en Russie à la série Canada-Russie. Donc, il est arrivé ici comme à peu près une semaine avant le début de la saison. Il n'avait jamais coaché de sa vie. Il connaissait pas ses joueurs. Il se mélangeait entre les attaquants et les défenseurs. Il envoyait Pierre Guité à la défense parce que Pierre Guité était un gars bâti, mais c'était un allié gauche. Tu sais, c'était des choses comme ça. Il n'était pas au bon endroit au bon moment, mais c'est notre Rocket, pour lui, il ne touche pas.
Exactement.
Ça fait que voilà. On passe à... Ah, puis c'est vrai, des Bruins. Deuxième Coupe Stanley des Bruins en 3 ans, cette année-là, contre New York. Et il y avait eu aussi, c'est vrai, avant que je l'oublie, la soirée Toe Blake au Forum, le 6 décembre. Je vais t'en parler pour une raison bien simple. Ce soir-là, on avait donné un trophée à Toe Blake, en disant qu'il y avait de l'argent coulé de l'argent original de la Coupe Stanley, de la première Coupe Stanley qui avait été offerte par le Lord Stanley lui-même. Or, depuis ce temps-là, au Temple de la Renommée, il manque un étage de la Coupe Stanley originale. On ne sait pas ce qui est arrivé avec.
Ah oui, tu vois.
Ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui a pris une drôle de décision cette fois-là. Puis... Oh! Pour faire un cadeau à Taublet, qui ont scrappé les archives.
Mais voyons donc.
Oui, ah. Ça s'est fait comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. On y va en musique? Go! Bon. T-Rex. Mark Bolin. Jeune chanteur, 24 ans. Le titre de la chanson, est-ce que c'est Bang a Gong ou Get It On? On le sait pas. Finalement, ils ont appelé ça Bang a Gong, Get It On. Artiste britannique, Mark Bolin, comme je te disais, 24 ans. Il est décédé dans les années 80 dans un accident d'auto. Il est rentré dans un arbre, pauvre gars. Ça, c'est à l'origine de ce que l'on appelle le glitter rock. Le rock à paillettes, si tu veux, avec des gros talons hauts. Arrive après ça les New York Dolls aux États-Unis, le groupe Kiss. On est en ligne directe. Musicalement, là, c'est l'héritage. Mais ça, le gros succès de Mark Bolin, qui n'a jamais réédité ce
Ça a été repris, succès-là. Cette chanson-là. C'est-tu Robert Palmer qui l'avait repris? Je me souviens pas qu'il l'avait repris, mais moi, je me rappelle de l'adaptation.
Je sais que ça a été repris dans les années 80, je me rappelle pas par qui exactement.
Mais bref, tu me fais découvrir l'original que je ne connaissais pas.
Je sens que les courriels vont rentrer. Donc, Mark Bolin, T-Rex, Bang a Gong ou Get It On, c'est pas grave, c'est bon pareil. Et c'est sur cet hymne de 1972 qu'on va se rappeler des actualités au Québec. Ça brassait au Québec des années 70, 71, 72. Les syndicats, ben là, c'était le Front commun. La demande initiale du Front commun, c'était des augmentations de salaire de 8 % par année. pendant 3 ans, donc 24 % d'augmentation de salaire, pour se mettre au pair avec les autres provinces. Le gouvernement Bourassa n'est pas vraiment d'accord. La solution, on prend les 3 chefs syndicaux des 3 centrales, des 3 principales centrales, c'est-à-dire M. Pépin, M. Laberge, M. Charbonneau, les 5 en prison. Ça marchait de même dans le temps. Sauf qu'une manifestation qui regroupait des syndiqués dans le temps, c'était des dizaines de milliers de personnes. On peut pas dire que l'enthousiasme est le même maintenant. On se battait aussi pour le salaire minimum, pour faire passer le salaire minimum à 2 $ de l'heure. Il faut dire qu'en 72, on partait de 1,50 $. Donc, c'est ce qui avait été accordé pour le 19 juin, 1,50 $ de l'heure, pour arriver finalement un an plus tard à 2 $ de l'heure. 17 juillet, les Rolling Stones viennent au Forum de Montréal. La veille du spectacle, le camion d'équipement explose sur la rue Classe, à côté du Forum. On est obligé de faire venir de l'équipement de Los Angeles. Le spectacle a lieu, mais c'est le chaos total. Il y a à peu près 3 ou 4 000 faux billets en circulation à Montréal. C'était facile de copier des billets en carton dans le temps, là. Ce qui fait qu'il y a bien du monde qui se sont fait virer de bord.
C'était un bon show?
Ça a l'air que c'était bon. Mon frère était là. Ça a l'air que c'était pas payé du tout. D'ailleurs, mon frère, qui avait dans les meilleurs billets, avait payé sa place 5,50 $.
Une autre époque.
Une autre époque, oui. L'époque où il y avait des spectacles dehors et où on pouvait avoir accès avec un prix raisonnable. Et puis, il y a un vol au Musée des Beaux-Arts le 4 septembre cette année-là. Un Rembrandt. On a dérobé un Rembrandt au Musée des Beaux-Arts de Montréal. La valeur du vol en 1972, 4 millions de dollars. L'évaluation qu'on en fait en 2020, la valeur de tout ce qui a été volé cette fois-là et que l'on n'a jamais retrouvé, 80 millions de dollars. Mais c'est un des plus grands vols de toute l'histoire des musées à travers le monde.
C'est vraiment intéressant.
Et c'est pourtant à côté de chez nous.
D'entendre ça.
On passe à un autre succès. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, la reine. Je vois le regard du gars de l'Estrie qui s'allume quand on entend René Bartel, hein? René Bartel, estrienne de longue date. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Tu sais que c'est une traduction, mais c'est une adaptation d'un duo, Delaney and Bonnie, Never Ending Love Song, A Song of Love. Je ne connaissais pas cette subtilité-là. J'ai écouté la version originale cet après-midi. C'est quoi? René Bartel est bien meilleur. On pourrait dire que c'était à ce moment-là que René Martel est devenue la reine du country pop. Parce qu'avant ça, Liverpool, puis Je vais à Londres, c'était très pop comme musique. Là, elle arrive avec ça. Et à partir de ce moment-là, on pourrait dire que René Martel occupe 2 trônes en même temps. 2 trônes qu'elle occupe toujours, selon moi. Non, mais la reine du country et la reine du pop en même temps. C'est, pour moi, la championne incontestée. Elle n'a jamais été dépassée, selon moi. René Martel, c'est quelqu'un d'irremplaçable. Et de voir qu'elle est toujours active, bon, elle a peut-être un petit peu ralenti ses activités, là, mais pour moi, René Martel, là, c'est mon éternel coup de cœur. Le 6 avril, cette année-là, le maire drapeau dévoile la maquette du Stade olympique. Hey, c'était beau, c'était blanc, c'était avec le toit, les arbres faits en styrofoam, c'était superbe. Et le maire, cette fois-là, dit que les Jeux olympiques, non seulement vont s'autofinancer, mais il n'y a pas plus de chances que les Jeux olympiques de Montréal fassent un déficit qu'un homme puisse mettre un enfant au monde. Je pense qu'un homme qui a accouché de triplet à un moment donné. Ce qui fait que le stade en lui-même était censé coûter... les Jeux étaient censés coûter 315 millions de dollars. Mais on s'est rendu 30 ans plus tard à terminer de payer une facture de 1,6 milliard de dollars. La dette, elle était lourde. Ben c'est ça. Pour un homme qui n'était pas censé accoucher, ben, veut-on, c'était des beaux jeux. On en a parlé longtemps, mais dont pas pour les bonnes raisons.
Malheureusement.
Ouais. Et le mouvement olympique cette année-là, ben c'était les Jeux de Munich. Les Jeux de Munich avec Mark Spitz, évidemment, la grande vedette des Jeux. 7 médailles d'or en natation. Olga Korbut en gymnastique avait été la vedette.
L'attaque terroriste.
Mais c'est aussi l'attaque terroriste, ne l'oublions pas. Les Jeux ont été suspendus pendant 1 journée et demie. 11 personnes sont décédées dans le cadre de ces attentats terroristes-là. Des Palestiniens contre des Israéliens. Faut jamais oublier que les Jeux olympiques, si on ne savait pas jusqu'à ce moment-là que c'était une scène politique, là, on l'a appris pas à peu près. La prochaine, maintenant, on y va. Bon, on parlait de guitare tantôt, sur le coin du feu, comme ça. C'est juste 2 accords, mais ça marche, hein, pour croiser les filles.
Ça a marché longtemps.
Ça a marché, là. Je pense pas que ça marcherait beaucoup, là.
On est bord de chansonnier, je suis sûr que ça joue encore.
Ah oui. Horse with No Name du trio America.
Mes deux préférés d'America, c'était Venture Highway et Tin Man.
Ben, tu sais que ça, c'est des réalisations de George Martin.
Ah oui?
Oui. Après cet album-là, George Martin s'est joint au trio America. C'est trois Américains qui ont commencé leur carrière en Angleterre. Pourquoi? Parce que c'était les fils de soldats américains qui étaient basés en Angleterre. C'était comme des généraux, des caporales, je sais pas quoi. Ah ben. Et c'était des enfants de la base, et non pas des enfants de la balle.
Quelle histoire.
Donc, c'est ça. On va tout de suite aller à la prochaine chanson, parce que je veux te laisser là-dessus absolument, sur les prochaines, parce que c'est important. 1972, le film de Godfather, le film de l'année. Marlon Brando, les studios ne voulaient rien savoir de Marlon Brando comme comédien principal, parce qu'il était du trouble sur les plateaux. Francis Ford Coppola, le réalisateur, a dit « Non, non, si c'est pas lui, moi, je le fais pas. » On avait parlé de Laurence Olivier, de George C. Scott. Mais c'était non négociable. James Caan avait passé l'audition pour jouer Michael. Finalement, il a joué Sonny. On avait offert le rôle de Michael à Jack Nicholson, qui l'avait refusé, en se disant « Non, je suis trop vieux pour jouer ça. » Les studios ont dit « Non, on va prendre Warren Beatty. » Encore là, Coppola dit « C'est Warren Beatty, moi, je m'en vais. » C'est un film qui a commencé sur l'Ashcan. Tu sais que dans le film « Le Parrain », on ne prononce pas le mot « mafia » une seule fois.
Ah ouais, ouais? Comment ça?
On faisait attention, je pense. Le plateau du Paré a passé au feu 2 ou 3 fois. Il y a du monde qui n'avait pas envie de voir ce film-là se rendre sur les grands écrans. Ce qui fait que ça a quand même été un succès. Pour moi, il s'agit du plus grand film de tous les temps. Et la trilogie tient debout aussi, même si le troisième volet est moins fort que les deux premiers. Mais tu sais qu'ici, et c'est là-dessus que je vais te laisser, on avait fait une adaptation du thème... De la musique du Parrain.
De quelle façon?
De quelle façon? Nous, on fait ça en surf. Le groupe Autre Chose avait repris le thème du Parrain, mais en surf. Écoute ce que ça donne. Ah, on va se laisser là-dessus.
Non, tu fais 172?
Ben, peu de temps après. Non, ça c'est pas en 72, mais je voulais te laisser là-dessus.
Ben non, c'est
bon,
un
parce
clin
que
d'œil.
C'est le week-end du soleil. On pense à ça. On parle beaucoup de déconfinement, sauf qu'en même temps, ça veut pas dire qu'on met de côté la distanciation et ces choses-là. Il y a des choses à respecter, il y a des règles à respecter. Respectons-les. On va finir par en sortir bientôt.
Sylvain, merci beaucoup pour cette belle demi-heure, comme à tous les vendredis soirs. Bonne fin de semaine. Et oui, on va les respecter, les consignes. Merci beaucoup.
Salut.
Merci.
À tantôt, minuit 4.
Et minuit 4, quart de nuit avec notre ami Sylvain. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Et nous, on s'en va à la pause. Et au retour, Guy Simard et les nouvelles.